Marie Laval, bonjour.
Bonjour.
Vous participez à cette manifestation intitulée Les Amériques latines à votre manière, hein, en présentant tout d'abord une exposition de photographie, mais aussi vous allez conclure cette manifestation par en quelque sorte une conférence, un débat, un récit d'expérience. Et autant vos photos que votre conférence vont porter sur le chamanisme, en tout cas tout ce qui tourne autour du chamanisme et comment vous l'avez rencontré. Alors moi j'aimerais savoir tout d'abord comment vous avez été amené à vous déplacer de l'autre côté de l'océan Atlantique et à vous intéresser plus particulièrement au chamanisme.
C'est le hasard. Je savais déjà ce que je voulais faire et j'en ai parlé autour de moi. Moi je voulais travailler avec les chamans, la médecine ancestrale en fait, qui est un carrefour pour moi pour sauvegarder et la biodiversité et la diversité culturelle. Et voilà, j'en ai parlé de partout. Et puis j'avais un professeur qui était maire de Barcelonnette, qui chante dans une chorale. Et dans la chorale chante Sœur Marie-Thérèse de la Divine Providence. Et en fait, un jour, il a entendu la Sœur Marie-Thérèse qui parlait de Sœur Liliane, qui était en Équateur, qui travaillait avec les plantes et avec les autochtones. Donc il a dit, écoutez, moi j'ai une élève, ça l'intéresse, elle veut faire son stage là-dessus. Donc il m'a donné le contact de Sœur Marie-Thérèse, que j'ai appelée, qui était très gentille, qui m'a donné le contact de Sœur Liliane, qui fait également partie donc, de la congrégation de la Divine Providence. Et Sœur Liliane est directrice d'une fondation, là-bas en Équateur, et il y a un groupe de chamans qui demandait depuis plusieurs mois à écrire un livre pour sauvegarder les savoirs, hein, parce que ils disaient, pour résumer, en gros, les anciens meurent, les jeunes ne sont plus intéressés, ils veulent partir vivre à la ville, faire des études, avoir une voiture, un travail, etc., le modèle occidental. Et donc, du coup, on n'a plus personne à qui transmettre nos savoirs. Et on veut écrire un livre pour peut-être, si ça saute une génération souvent, et nos petits-enfants, peut-être qu'ils s'intéresseront à notre culture, et ce sera un moyen pour eux de retrouver. Donc voilà, ils voulaient écrire un livre. Elle n'avait pas le temps, donc j'ai appelé au bon moment. Elle m'a dit, écoute, il y a ce projet-là qui attend de naître. Est-ce que tu veux t'en charger? J'ai dit oui, et puis je suis partie comme ça, quoi. Mais à l'Équateur, je n'y ai pas pensé, je ne savais pas du tout. Je m'étais dit, l'Amérique latine, voilà, c'est un peu le berceau actuel du chamanisme, on va dire. Donc voilà.
Alors vous venez de nous donner une information intéressante, importante. Le chamanisme est donc en voie de disparition. Une de mes questions, hein, vous savez, quand on prépare une interview, on imagine toujours les questions qu'on va poser. J'avais envie de vous demander quel est l'état de santé du chamanisme. Pas terrible finalement.
C'est assez spécial en fait, parce que en fait, on va dire que le chamanisme traditionnel communautaire, il se délite à vitesse grand V avec l'acculturation, l'occidentalisation, etc. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que c'est nous, les Occidentaux, qui, maintenant, en fait, sont le réceptacle de ces savoirs ancestraux. Et puis, en même temps, on les transforme. Donc, je dirais pas qu'il est en voie de disparition, mais il est en transformation profonde. Et après, il y a énormément de dérives aussi avec tout ce qu'amènent les Occidentaux, particulièrement l'argent. Donc, le chamanisme se transforme en charlatanisme dans pas mal d'endroits. Voilà, il y a de tout, mais c'est vrai que les pratiques se transforment beaucoup.
Alors, pour beaucoup d'entre nous, le mot chamanisme englobe beaucoup de choses. En fait, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une médecine? Est-ce que ce sont les deux à la fois?
Oui, c'est peut-être tout à la fois, je ne sais pas. On va le redire, je pense qu'on le rabâche à chaque fois. Donc, allez, on va finir par savoir. Chamanisme, chaman, ça vient donc d'un mot tongouz, donc c'est des peuples de Sibérie. Bref, et les anthropologues de l'époque, 18e, 19e, qui sont mis à explorer un peu le monde et les cultures, ont utilisé ce mot de chaman, qui était donc un mot tangouze, pour qualifier tout un tas de pratiques de par le monde. Et le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est assez difficile à définir, parce que, en fait, ça regroupe plein de pratiques. Par exemple, pour le cas de l'Équateur, il y a plein de gens qu'on va appeler chaman, et puis il y a des spécificités. Par exemple, il y a le curandero. Donc ça, c'est le chaman qui commence, en fait, qui apprend et qui est capable d'utiliser les plantes pour soigner surtout les maladies physiques, mais qui est capable aussi de commencer à faire des limpias, des purifications énergétiques. Le curanderos, après 30 ans de pratique, il devient yachak à peu près. Yachak, c'est un mot quichua qui veut dire le sage. Et donc là, c'est un chaman qui est capable de soigner non seulement le corps avec des préparations médicinales, mais aussi les émotions, les énergies, par les limpias, et puis qui est aussi capable d'être conseiller. Donc il va conseiller non seulement sur la vie personnelle, mais la vie conjugale, la vie sociale, et puis petit à petit, le yachak devient aussi conseiller de la communauté. Mmh. Il y a la partera, qui elle est la, en général une femme et qui est spécialisée sur les maladies des femmes ou les menstruations, l'accouchement, etc. Il y a le brujo qui lui est spécialisé dans tout ce qui est sort pour rendre malade, pour faire mourir, pour gagner de l'argent ou toutes ces choses-là. Et voilà, donc chaman, ça recouvre plein de réalités. On va dire que ça mélange des médecins, des gens qui occupent la fonction de prêtre, des gens qui occupent la fonction de conseiller politique, de conseiller, de psychologue aussi, mystique aussi. Il y a des chamans qui sont, voilà, qui vont partir voyager, converser avec les esprits, donc c'est tout un tas de choses.
Est-ce que c'est transférable en l'état, hein? Est-ce que le chamanisme peut s'installer en France, par exemple, en Drôme, en Ardèche, à l'identique, un copier-coller en quelque sorte, Équateur, Ardèche?
En l'état, je ne sais pas. Moi, il y avait plein de chamans, surtout un chaman qui s'appelait Segundo, qui était un chaman très voyageur, qui est allé au Pérou, en Bolivie pour apprendre. Et puis, il me disait « Ah, Malicita je veux venir en France, on va faire des limpias, on va faire des limpias. » Je disais, ouais, oui, écoute, Segundo, mais les gens là-bas, ils ne connaissent pas les limpias. Et puis, ça leur ferait peur, en fait, les limpias, parce que j'ai l'impression que les Occidentaux, on a une tendance un peu que j'appelle New Age, c'est-à-dire, oh, on aime bien, mais il faut que ce soit tout joli, gentil et doux et propre et sain, et voilà, bien lissé. Et alors, la limpia, ce n'est pas du tout propre et lissé, c'est totalement rock'n'roll comme truc. Et on ressort d'une limpia, on pue, on est plein d'alcool, de tabac, de macération. Et il ne faut pas se laver pendant 3 jours, il ne faut pas manger ceci. Il y a des restrictions alimentaires très dures. Et les Occidentaux, on est encore, on aime beaucoup notre confort, quoi. Ça arrive petit à petit, ça arrive. Mais si on dit aux gens, bon, bah, écoute, on va faire une limpia, il faut se lever à 3h du matin pour être à 5h du matin à la cascade, tu te jettes dans la cascade gelée, et hop, après on te passe des orties, avant on te passe des orties sur le corps. Il y a peu d'Occidentaux à l'heure actuelle qui sont prêts à faire ça. Donc c'est vrai que c'est pas pareil, on a beaucoup de confort ici, et là-bas, je pense qu'ils sont plus prêts, on va dire, à faire les choses qui sont pas forcément agréables comme ça pour le... Je ne saurais pas trop pour dire pour quelle partie de nous qui n'est pas agréable, qui est un peu « Ah, ça fait mal, ça pique, c'est désagréable ». Et puis en même temps, on sent que dans le fond, c'est agréable pour le corps, agréable pour l'esprit, quoi. Donc bon, mais peut-être que ça viendra petit à petit. Je sais qu'il y a surtout la tradition amérindienne, en fait, qui s'installe de plus en plus, là. Ardèche, Drôme, des huttes de sudation, des gens qui apprennent à jouer du tambour, etc. Donc...
Bon, et on peut peut-être revenir aussi sur ce qu'on connaît du chamanisme en Europe, hein, au Moyen-Âge. Les sorcières, la sorcellerie, c'était le quotidien des autochtones de l'époque.
Oui, revenir au temps des sorcières. Je sais pas si c'est revenir. Mais c'est vrai que quand j'étais en Équateur, j'étais là-bas donc pour aider à écrire un livre, hein, sur les savoirs ancestraux, et j'ai appris énormément de choses et c'était génial. Et puis je me suis dit, mais moi je connais rien en fait de ma terre, je connais rien de mes ancêtres, enfin mes grand-mères, elles m'ont pas transmis tout ça. Les remèdes de grand-mère, bah, je les trouve dans des bouquins. Et voilà, et je me disais, bon, bah, en rentrant, c'est important aussi d'aller à la recherche de ces savoirs. Donc bon, petit à petit, on finit par rencontrer des gens qui recherchent. Hein. Il y a énormément de savoirs. J'ai l'impression qu'ici, il y a une science que j'ai pas du tout connue là-bas, qui s'appelle la géobiologie. Et qui est très lié en fait aux sites mégalithiques, sites sacrés, etc. Et par laquelle on peut peut-être retrouver un peu des savoirs anciens, quoi, de chez nous. Hein.
Marie Laval, j'aimerais bien que vous nous parliez de cette conférence que vous allez donner dimanche prochain ici, donc en salle François Mitterrand, c'est en mairie de Bourg-lès-Valence. Quel va être le contenu?
Le contenu, donc, c'est parler d'une autre culture, d'une autre vision, de parler du chamanisme. Et au travers de mon expérience, c'est donc d'essayer de ne pas faire de généralité, de dire le chamanisme c'est ça et c'est pas ça, mais plutôt d'essayer de montrer un peu la diversité et puis de parler, voilà, par des anecdotes, des expériences. De ça, quoi, de comment vivent les gens là-bas, comment ils se soignent, comment aussi les chamans voient l'humain, le corps qui est très différent de nous. Pour nous, notre corps s'arrête au bout de nos doigts. Pour le chaman, si ton chien est malade, c'est que tu es malade. Le chien, c'est ton corps. L'arbre de ta maison, c'est ton corps. Donc pour eux, le corps, par exemple, c'est des relations, en fait. C'est pas quelque chose de physique qui s'arrête au matériel.
Oui, c'est une histoire de médiation aussi.
Oui, tout à fait. En fait, moi, le chaman, je dis des fois, c'est un répertoire, quoi. C'est le bonhomme qui connaît tel esprit, qui connaît telle plante, qui connaît telle rivière, qui connaît telle montagne, voilà. Il les connaît parce que, lui, c'est son boulot d'aller à la rencontre des esprits, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire cet esprit, comment il peut aider les humains, et puis voilà, il sait marchander avec les esprits. C'est pas du commerce. Et du coup, voilà, il voit qu'il y a une maladie, il peut appeler, voilà. Tel esprit qui va venir aider. Donc oui, c'est vrai que c'est de la communication et du marchandage, ouais, quelque part.
Donc vous allez nous parler de ce médiateur. Est-ce qu'on pourra avoir quelques photos? Vous avez prévu un diaporama pour illustrer vos propos, même si déjà vous êtes en train là justement d'installer des photographies que vous avez réalisées au cours de ce travail?
Oui, tout à fait. Je fais un PowerPoint. Hein, Ouais, bien sûr. Moi, de toute façon, déjà à la base, je suis quelqu'un de très visuel. Donc j'aime bien parler, mais j'aime bien montrer des images aussi, parce qu'il y a des choses que on peut pas exprimer avec les mots. Donc voilà. Je peux bien dire que les chamans, avant de ramasser une plante, ils vont lui faire une prière. Mais quand on voit la photo de Segundo qui est en train de faire une prière à la Madre Ayahuasca et qu'on voit la concentration sur son visage, ses mains ouvertes comme ça, voilà, ça parle, ça dit des choses qu'on peut pas dire comme ça avec les mots. Donc ouais, bien sûr, il y a un PowerPoint, il y a des images, et puis il y a l'expo aussi qui permet de voyager tout seul. Il y a les légendes pour aider à entrer dans la photo et puis après de partir, quoi.
Marie Laval, merci. On se retrouve donc dimanche dans cette salle François Mitterrand en mairie de Bourg-les-Valence. Je regarde juste l'horaire, 15h. Ce sera d'ailleurs la fin de cette exposition vente d'artisanat proposée par l'association Aïlou. Merci beaucoup.
Merci.